Bonjour, je m'appelle Roland Perret, je suis énergéticien en art solaire. Je vous propose dans cette série de podcasts de voir ensemble ce qu'est une authentique évolution spirituelle sous l'angle du pragmatisme et de l'efficacité. Nous verrons cela ensemble sur la base de mes recherches et des résultats que j'ai obtenus. Vous trouverez l'ensemble de mon travail ainsi que des outils à votre disposition sur mon site internet révélationducœur.com. Vous êtes bien sûr libre de rejeter mes propos s'ils ne vous conviennent pas. Les entités parasites, de quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il peut être justifié de concevoir le monde de cette manière? Et dans l'affirmative, comment traiter cette problématique? Ce podcast est destiné à des personnes ouvertes d'esprit, et pour le moins curieuses, et ainsi nous pourrons voir ensemble, avec autant de pragmatisme que possible, ce qu'il en est de cette question. La question des entités parasites est une question plutôt dérangeante dans notre société occidentale. Nous savons bien que les cultures traditionnelles, les sociétés tribales, les religions et nombre de courants spiritualistes attestent de la réalité de créatures qui vivraient aux dépens de l'être humain. L'homme occidental, et même maintenant l'homme oriental, très influencé par la culture de l'Occident, rejette tout cela comme des visions de superstition peu fantomatiques qui datent d'un autre âge, un âge d'obscurantisme. Nos instruments scientifiques ne peuvent pas prouver l'existence de ces entités. De la même manière, nos instruments ne peuvent pas prouver leur inexistence. Alors, qui parle de ces entités? Nous en trouvons de nombreux témoignages chez les clairvoyants, chez un grand nombre de psychothérapeutes, dans certaines branches de la psychiatrie, et bien sûr chez des auteurs versés dans les sciences ésotériques spirituelles. Un grand nombre de personnes se dit également possédées, selon l'ancienne terminologie. Elles ont l'impression d'être habitées, en quelque sorte, par quelqu'un d'autre, de vivre en elle des présences étrangères. Beaucoup parlent aussi d'impulsions qui sont comme induites dans leur esprit et auxquelles elles ont parfois eu le malheur d'obéir, de suivre leurs directives. Ce sujet est très tabou et peu de personnes ont le courage de s'exprimer sous cette manière. Il nous est dit également que la présence d'entités en nous peut provoquer des maladies, des problèmes à différents niveaux et être source de manque d'harmonie sur un plan général, c'est-à-dire sur le plan des événements de nos vies. La malchance, les problématiques matérielles à répétition seraient aussi le fait de certaines de ces entités. Alors, quelle vision du monde découle de ces hypothèses, disons, de ces visions particulières? Cela donne l'image d'un monde parallèle au nôtre. Mais contrairement à l'idée courante dans certains milieux spiritualistes et surtout religieux, ce monde parallèle, ce monde différent du nôtre, ce monde non matériel, serait loin d'être une espèce d'océan de bien-être et de bienveillance. Nous avons plutôt l'impression d'un monde parallèle au nôtre, avec peut-être même des problématiques similaires et des niveaux de conscience qui ne sont pas loin de l'inharmonie générale qui règne chez les humains. Naturellement, par problématiques similaires, je n'entends pas des problèmes matériels, mais plutôt des problèmes de niveau de conscience, d'évolution, de capacité, de bienveillance, par exemple. Ce monde appelé communément dans le jargon spiritualiste le monde astral, ou le monde de la mort, est aussi souvent qualifié de monde miroir. Il y a également le terme de sphère réflectrice. Si donc nous gardons cette idée de monde miroir, avec cet axiome hermétique de tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, nous pouvons essayer d'établir des correspondances entre notre monde matériel et ce monde miroir, ce monde astral. Il y a dans notre monde physique une gamme énorme d'interactions entre les êtres humains. Nous pourrions les réduire à des comportements, en tout cas ceux qui nous intéressent parmi ces comportements, ceux qui sont axés sur la survie et sur l'enrichissement. Là, nous avons toute une gamme de comportements qui va du jeu d'influence, jusqu'à la manipulation psychologique, jusqu'à l'extorsion, jusqu'à une forme de criminalité. Les créatures du monde miroir, dans cette vision des choses, n'échappent pas à cette réalité. Il y aurait toute une gamme d'entités plus ou moins évoluées qui va d'une conscience proche de l'animal à des intelligences très supérieures, en passant par des niveaux de conscience proches de l'état de conscience ordinaire de l'homme. Alors pourquoi ne les voyons-nous pas ? Hormis les personnes clairvoyantes ou clairaudientes, ce monde nous est caché. Et pourquoi il nous est caché ? C'est une question à laquelle je pourrais répondre sur la base d'une expérience personnelle que je vais vous conter. Mais avant cela, il faut comprendre quelle est la raison d'être de ces entités, quelle est leur fonction, qu'est-ce qu'elles font, quels intérêts elles ont à être aussi proches de l'homme, aussi intrusives par rapport à l'homme. Avant d'aller plus loin, je tiens à dire que parmi toutes ces entités, il y en a qui sont bien sûr inoffensives et certaines tout à fait amies avec l'homme. Mais c'est une autre question, là nous traitons des parasites, on peut appeler aussi les parasites éthériques ou les animus éthériques. Les thérapeutes qui ont cette vision des choses, donc une conception claire de ces animus éthériques, de ces entités parasites, ont constaté une chose importante. Lorsque une personne est en pleine santé physique et morale, lorsque sa psychologie est au beau fixe, en quelque sorte, lorsque cette personne est en équilibre, il y a peu de chances, voire aucune, qu'elle soit infestée par une entité parasite. Par contre, si une personne a subi des chocs qui peuvent être physiques, comme des accidents, des traumatismes divers, que ce soit dans son enfance ou dans sa vie adulte, des nouvelles bouleversantes, des deuils, des chocs émotionnels de toutes sortes, s'il s'ensuit un affaiblissement marqué dans sa psychologie, un stress important, des tensions plus ou moins insupportables, cela crée dans le système psychosensible, pourrait-on dire, dans le corps éthérique, il s'ensuit des failles, des trous, des manques qui attireront magnétiquement ces fameuses entités parasites. Un grand nombre de ces créatures sont attirées par une substance particulière qui exude de l'être humain lorsqu'il est abattu, triste, lorsqu'il perd de l'énergie, comme il le dit lui-même, eh bien, cette énergie n'est pas perdue pour tout le monde. Et dans ces cas précis, l'entité va donc pénétrer le système énergétique, s'y installer et se nourrir de ce type d'énergie particulière. Cette même entité va être capable d'influencer le psychisme humain. Il faut comprendre que pour elle, selon les descriptions que nous en avons, notre esprit, notre psychologie, notre personnalité sont un livre ouvert. Il y a une transparence à laquelle elles accèdent et elles repèrent nos points faibles, nos faiblesses sur lesquelles elles peuvent appuyer pour encourager en nous la production de cette énergie particulière dont elles se nourrissent. Comprenez-moi bien, je ne vous parle pas ici des personnes qui entendent des voix dans leur tête, nous en parlerons plus tard, mais bien de ces situations très ordinaires que nous connaissons tous, ces situations où nous sommes pris parfois dans une espèce d'engrenage, d'agacement ou d'énervement envers l'autre qui va crescendo jusqu'à atteindre certains sommets plus ou moins violents. Et ces états, des états dans lesquels nous nous mettons et que parfois nous regrettons. Il est quand même très étonnant qu'un être humain qui se dit conscient puisse être arrivé à pouvoir prononcer des paroles et ensuite dire, penser, réaliser « ces paroles ont dépassé ce que je voulais dire. Je ne voulais pas dire ceci, je ne voulais pas dire cela. » Comment est-il possible que l'être humain soit à ce point indigent pour qu'il ne puisse pas dire ce qu'il veut dire, penser ce qu'il veut penser ? Cela s'explique par cette induction télépathique dont sont capables ces entités pour nous encourager au conflit. Là, nous parlons de conflits dans le couple, dans la vie de tous les jours. Mais bien sûr, cela s'applique à des nations entières et à des conflits mondiaux. La subtilité du piège réside dans le fait que l'homme s'imagine à ce moment-là que c'est lui qui formule ses pensées, qu'elles lui sont propres, qu'elles sont justifiées en lui par sa libre volonté. On peut se reposer la question de pourquoi ensuite il va dire que ses actes, ses paroles ont dépassé son vouloir. Il faut savoir que la télépathie est le mode de fonctionnement de base de communication de ces entités. La manipulation est d'autant plus habile et pernicieuse qu'elle est efficace. L'homme croit que ses pulsions, que ses colères, ses énervements sont dus de son fait. Or, il est clairement, selon la vision que nous pouvons en avoir, de manipulation, d'être invisible. Pour prendre conscience du problème décrit, il faut en plus considérer une autre capacité de ces êtres. Ils sont métamorphes, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer la forme de leur corps, la visibilité par l'extérieur de leur apparence, comme bon leur semble. Ils ont une forme de base, mais ils peuvent la modifier suivant leurs intérêts. Là, ce sera le cas pour des personnes qui, à cause de leur très grande sensibilité, ont par exemple des visions. Une vision de la Vierge ou d'un ange peut très bien et très certainement être un métamorphe qui se présente de cette manière en respectant la culture propre à l'individu. Un chrétien va voir Jésus ou la Vierge, un musulman pourra voir le prophète, un indien pourra voir des divinités propres à son panthéon, etc. Dans d'autres situations, si c'est plus approprié, ce sera des figures effrayantes ou diaboliques. L'essentiel étant de toute façon de pouvoir dérober des éléments contenus dans l'émotionnel débridé de l'homme. Ce n'est pas que ces créatures soient mauvaises ou veulent la destruction de l'homme. Non, bien au contraire. Elles sont bien plus comme des fermiers avec leur bétail humain. C'est-à-dire que leur objectif étant de stimuler l'excrétion de cette substance dont ils raffolent, ils vont encourager leur bétail à toujours plus de conflits afin de mieux les asservir en quelque sorte. Ils ne veulent pas la fin de l'humanité, pas plus qu'un fermier voudrait anéantir son troupeau, son bétail. Bien au contraire, il veut que son bétail soit dans les meilleures conditions de manière à pouvoir obtenir ce qu'il désire. Ce qu'il veut éviter à tout prix, c'est que la vache s'échappe du troupeau. Il est donc absolument nécessaire pour ces créatures qu'elles soient invisibles à l'homme, qu'ils n'en prennent pas connaissance, qu'ils n'en prennent pas conscience. Ce n'est pas un état extraordinaire de l'homme, c'est son état, on pourrait dire, naturel, malheureusement. L'être humain, dès la naissance, peut-être même à cause du traumatisme même lié à la naissance, est touché par cette problématique. Il n'y a quasiment personne qui échappe à la présence en lui d'entités parasites, sauf dans le cas de figures, bien sûr, où le taux vibratoire permet de se débarrasser de manière complète de ce problème. Mais nous y reviendrons. Ces créatures, donc, veulent absolument rester invisibles. Je vous ai promis un exemple, une anecdote tirée de ma vie personnelle. Ma première compagne, qui n'est plus de ce monde, était atteinte de troubles graves, d'une dépression sévère. Elle avait régulièrement des crises et des comportements choquants pour la société dans la petite ville dans laquelle nous habitions. Il arrivait régulièrement qu'elle se mette nue pour dans la rue, ou encore pire, dans certains cas, se mettre nue dans une église le jour d'une communion. Oh, la liste est tellement longue de ces comportements aberrants que je vais en rester là. Mais lorsque il y avait des moments d'accalmie, les crises duraient quelques jours, puis son état se rétablissait à peu près. Lorsqu'on lui posait la question du pourquoi elle avait fait telle ou telle chose, on essayait d'en parler calmement, c'était toujours le silence. Il y avait vraiment un mystère. Elle ne s'exprimait absolument pas sur le pourquoi de ses actes, en fait tout à fait catastrophiques, hein, pour sa propre vie bien sûr, pour la vie de son entourage, et très choquante pour l'alentour. Un jour, pourtant, alors que je m'étais résolu, après une dizaine d'années, de me séparer d'elle, police municipale vient sonner à ma porte et me dit que ma compagne avait brisé la toute nouvelle vitre de l'église de la ville. Vous savez, ces espèces de sas en verre, ben, qui permettent un certain confort au niveau de la température. J'ai pu arranger, on va dire, la situation. Et pourquoi avait-elle fait ça? Sa fille, qui avait 7-8 ans à l'époque, a réussi à lui tirer les verres du nez, en quelque sorte. Et il lui a confié que Jésus, donc une voix dans sa tête, lui avait dit « La porte de la maison du Seigneur doit rester toujours ouverte. » Or, elle venait d'apprendre qu'il y avait cette toute nouvelle installation de ce sas. Et suivant donc les injonctions, en suivant les messages qu'elle recevait, bah, elle est allée à la quincaillerie, elle a acheté une grande masse et elle a un grand coup brisé la vitre. Ses voix devaient toujours être secrètes. Elle lui soufflait « Ne dis pas qu'on est là, ne dis à personne qu'on est là ». Voilà, pour cet exemple, je vais vous en citer un deuxième. C'est un ami d'enfance qui s'est essayé à une carrière musicale. Il aimait beaucoup le jazz, mais sa vie artistique, c'était une catastrophe. Il n'arrivait pas à en vivre et il avait une vie sociale, on va dire, médiocre. Et il était plutôt malheureux de cette situation où on ne reconnaissait pas son talent. Un jour, sans doute de grande tristesse, il entend une voix dans sa tête pour la première fois. Cette voix lui dit cette voix disait « Je suis un grand joueur de jazz décédé ». Je ne me rappelle plus qui, je ne suis pas un spécialiste du jazz. Et lui dit « Voilà, moi, ce grand artiste, je suis mort dans des circonstances tragiques et je n'ai pas eu le temps de composer certains morceaux. Si tu veux, je te les souffle et tu vas pouvoir écrire ces partitions. Tu vas pouvoir devenir, tu vas pouvoir être reconnu, riche et célèbre. Et moi, j'aurai la satisfaction que mon œuvre pourra être accomplie à travers toi. » Et là, mon ami est enthousiaste et il se met à transcrire, à retranscrire, à écrire des partitions. Puis une autre voix, un autre artiste, encore un. Lui aussi mort dans des circonstances tragiques. Je crois savoir que beaucoup d'artistes à cette période sont morts tragiquement. Peu importe, encore un autre, et il n'arrête pas d'écrire et d'écrire des partitions. Il est heureux, il y a une forme d'euphorie qui s'est installée en lui. Une nuit, il se réveille brutalement, ou plutôt ce sont les voix qui le réveillent. Ces voix lui disent « Lève-toi et prends une douche glacée ». Lui réagit « Mais comment? Mais pourquoi ?»« C'est un ordre, on te donne des partitions, tu dois obéir, tu dois prendre une douche glacée ». Le pauvre homme se lève, il obéit, il prend sa douche glacée. La voix insiste et elle lui dit « Va sur le palier, sonne chez le voisin, en pleine nuit hein, bien sûr, et dis-lui que tu as couché avec sa femme. Quoi ? » « Je ne peux pas faire ça. » Les voix lui disent « Écoute, si tu ne fais pas ça, c'est fini, les partitions, on ne te donne plus rien. » Et cet ami, qu'est-ce qu'il fait ? Il va le faire. Il sonne à la porte, il dit ça au voisin. Là-dessus, le lendemain au réveil, il est en mode panique. Et c'est là qu'il vient me voir, me raconter toute cette histoire. Je ne l'avais pas vu depuis au moins 20 ans. Il me raconte ça, il me dit « Oui, je sais, tu as eu, avec ta compagne, tu connais le problème, je ne sais pas à qui parler, j'ai peur d'aller dans les hôpitaux chez les médecins, j'ai peur qu'on m'enferme, je ne sais pas à qui dire ça, est-ce que tu as une solution, est-ce que tu peux m'aider ?» J'ai commencé par le calmer, je lui ai conseillé de dire à son voisin qu'il avait fumé un joint et que voilà, qu'il y avait un moment d'égarement, qu'il s'en excusait, que c'était toujours mieux que de faire venir une ambulance. Il s'est exécuté, on a parlé un peu de ses voix. Mais ce que j'ai eu l'idée de faire, parce que j'ai constaté que pour lui aussi, les voix devaient être cachées. Personne ne devait savoir, personne ne devait prendre conscience de leur présence et puis du don merveilleux qu'il faisait. C'était comme pour ma compagne. J'ai profité d'une période hors crise de ma compagne pour les convoquer tous les deux, pour les réunir tous les deux. Ils ne se connaissaient pas. Et ils sont donc venus tous les deux dans mon salon. Deux personnes qui entendent des voix et chacun avait ce phénomène, les voix veulent rester secrètes. Et là, on révèle le jeu au grand jour. Moi, j'étais un petit peu l'arbitre en quelque sorte de la situation. Mon ami a dit « Ah, elles nous font faire des bêtises, hein, ces voix ». Oui, oui, en effet, répond-elle, en effet, elles nous font faire des bêtises, il faut qu'on arrête ça, oui, 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 il faut qu'on arrête ça. Et lui, il dit, moi, de toute façon, j'arrête, j'ai arrêté, j'ai commencé à détruire les partitions, moi, j'arrête. Elle dit, oui, moi aussi, j'arrête. Et puis, je vois son visage se décomposer, elle change d'attitude, comme je la connaissais très bien, je lui demande, qu'est-ce qui se passe ? Et elle me dit, j'arrête, sauf une. N'est-ce pas ? Elle veut garder une voix. Et je lui dis, on peut savoir qui c'est ? Elle me dit, Jésus. Et là, il n'y avait rien à faire. Elle avait reçu une éducation religieuse, même si elle l'avait rejetée par la suite. Mais dans sa dépression, voilà, tout avait repris le dessus, en quelque sorte. Conclusion de l'affaire. Le garçon, l'ami, le musicien, bah, il a tout arrêté. Je lui dis, c'était quand même un peu dommage, on aurait pu voir ce qu'il en était de ses partitions, parce qu'il a tout détruit. Mais à mon avis, de toute façon, ça valait rien du tout. Mais bon, on ne saura jamais. Il s'en est sorti, malheureusement, pour ma compagne. Vous voyez les nuages déformés dans le ciel, prendre la figure de Jésus, lui parler, et ainsi de suite. Là, nous avons une belle illustration du métamorphisme de ces êtres et de ce du côté pernicieux et traître, finalement, de leur faculté télépathique. Je me suis rendu compte plus tard que cette confrontation entre des personnes qui entendaient des voix avait été inaugurée par en ethnopsychiatrie. Voilà, si ce sujet vous intéresse, vous trouverez la piste de ce genre de cas. Voyez notamment les travaux de Toby Nathan. Si c'est la première fois que vous entendez ce type de récit, vous aurez peut-être eu et vous avez peut-être une forme de dégoût, un réflexe qui pourrait vous inciter à dire « Non, ce n'est pas possible, un tel tableau. On ne trouve pas ça dans la nature. » Nous avons parlé tout à l'heure du parallélisme entre le monde physique et le monde astral. Alors, est-ce que nous avons de tels comportements dans notre vie animale, par exemple ? Eh bien, je vais vous en donner un. Connaissez-vous la blennie à dents de sabre ? Je suppose que non, ce petit animal, c'est un petit poisson, n'est pas des plus connus. Alors, vous avez certainement vu dans des documentaires animaliers ces stations de nettoyage de certains poissons. Vous savez, les poissons sont comme ces pachydermes dans la savane qui se font nettoyer par des plus petits animaux qu'eux. Alors imaginez un poisson clown, par exemple, qui vient dans une de ces stations de lavage où des petites blennies, des labres, viennent les nettoyer. Alors ce sont des petits poissons d'à peu près 10 cm de long, tout fins. Ils sont couleur bleue, voilà, avec une rayure. Et ces petits poissons vont nettoyer les écailles, voilà. Là, c'est un échange de bons services. Le poisson clown se retrouve nettoyé de ses petits parasites et le labre s'est nourri de ses petits déchets. Mais voilà qu'intervient la blennie à dents de sabre. Alors, cette blennie, c'est pareil, elle a une forme à peu près similaire. C'est un petit poisson qui a aussi 10 cm de long. Elle n'a pas la même couleur, elle n'est pas bleue, elle est jaune avec une rayure. Et elle a surtout des dents de sabre. Hein. En microscope, elle a une bouche plutôt d'un monstre avec deux grandes dents. Eh bien, il se trouve que cette blennie à dents de sabre, appelée aussi le faux nettoyeur, est capable de se transformer. Il change de couleur et de jaune, il devient bleu. Et ainsi, il est quasiment en tout point pareil au labre nettoyeur. Suffisamment, en tout cas semblable, pour qu'il puisse se rapprocher des plus gros poissons. Eh bien, une fois qu'il s'en est rapproché, il va planter ses dents et arracher les écailles de ses poissons. Une fois son forfait accompli, il retrouve sa manière de nager, parce qu'il avait imité, même jusqu'à son jeu de nageoire, l'autre labre nettoyeur. Et donc il reprend sa vélocité avec ses autres jeux de nageoire, va se cacher et retrouve dans des trous de coraux. Hein, tout ça, ça se passe dans les coraux du Pacifique. Il va retrouver sa couleur originelle. Là, vous voyez, ce mimétisme prédateur comme il existe dans notre nature. Nous allons pouvoir maintenant aborder une chose très importante par rapport à ces fonctionnements et qui peut être à notre avantage. Ces créatures sont irrégulières, en quelque sorte. Elles n'ont pas leur place dans l'ordre des choses. Elles ont des comptes à rendre par rapport à leur activité. Mais nous avons vu qu'elles étaient pourvues d'une certaine intelligence, et donc elles peuvent se targuer que l'homme est d'accord pour être traité de la sorte. Alors voilà, si nous reprenons l'exemple de mon ami musicien, nous voyons très bien qu'il y a une forme de contrat. Voilà, on est tout à fait dans le mythe de Faust avec le contrat avec le diable, c'est-à-dire qu'on lui propose quelque chose, là les partitions, et on le faire en quelque sorte grâce à son désir. Peut-être qu'il y avait aussi une forme de vanité et d'orgueil basée sur ses blessures. Bref, il est d'accord. Il est d'accord pour recevoir des choses de ce monde invisible, recevoir ses partitions. Petit à petit, l'échange se durcit. Tout d'un coup, voilà, si tu veux que ça continue, il va falloir que tu fasses ça et que tu fasses ça, sinon ça va s'arrêter. Ce n'est pas venu tout de suite. Mais ce qui compte, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la notion de contrat. À un moment donné, il faut être d'accord. Alors, il peut se passer ces types de contrats sur le plan conscient, lorsque l'individu est conscient, un petit peu comme l'exemple biblique, vous savez, du Christ désert avec le diable qui lui propose une immensité, grande richesse, en échange de son asservissement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais malheureusement, pour nous, il y a une forme de contrat qui nous est soutirée. Je pense notamment à notre vie de rêve. Dans la vie de rêve, il se peut que parfois nous sommes amenés à signer des documents ou à prendre des véhicules dans certaines directions sans que nous puissions conduire. Nous sommes emmenés dans tel ou tel endroit. Le fait de donner notre acquiescement dans le rêve sans notre conscient, et pour ces entités, fait figure d'autorisation. Le contrat, ça c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est un contrat qui est fait sans le témoin de notre conscience. C'est là que c'est intéressant. Pour toute chose importante, pour tout contrat à signer dans notre vie matérielle, il faut, comme un mariage par exemple, il faut un témoin, un minimum. Là, le contrat dans la vie de rêve s'est signé de manière inconsciente. Donc, il est caduc. Nous pouvons, par rapport à, comment on pourrait dire, à des lois d'autres, de ces autres mondes, on pourrait dire des lois cosmiques pour simplifier, mais tout ça demanderait vraiment à être approfondi. Ces contrats, nous pouvons les déchirer. Mais pour cela, il faut prendre conscience qu'il y a contrat, qu'il y a entité extérieure à nous. C'est tout un processus qui permet ce genre de libération. D'où la nécessité de démasquer ces entités. Certains ont appelé ça le grand mensonge. Il est important d'en prendre conscience et de sortir d'une forme de naïveté. Une naïveté qui consiste à penser que tout ce qui vient du ciel est béni, que tout ce qui vient des mondes invisibles est bon pour l'homme, est bienfaisant pour l'homme. Un peu comme on le voit sur le plan politique, on sourit peut-être un peu devant la naïveté de certaines personnes qui pensent que les États font tout pour eux, pour leur bien-être. Alors que, on sait très bien, lorsqu'on étudie ces choses avec un peu plus d'acuité, un peu plus d'intelligence, qu'il s'agit de lutte d'intérêts. Il n'y a pas de bienveillance absolue de l'État. Si vous allez faire des actes à l'encontre des intérêts de l'État, vous allez voir ce qui va vous arriver, n'est-ce pas? C'est pareil pour les mondes invisibles. Il faut sortir de cette naïveté. Ça ne veut pas dire que tous les mondes spirituels sont mauvais ou négatifs, pas cela, mais il y a vraiment une tromperie très très importante et qui dure depuis des siècles, qu'il est important de dénoncer en fonction de notre évolution actuelle. Il faut savoir également que cette naïveté dont nous parlons, c'est-à-dire cette croyance que les mondes invisibles sont absolument tout amour et toute bienveillance envers l'homme. Cette croyance est soigneusement entretenue par une forme de propagande de la part de classes d'entités à l'intelligence supérieure de celle dont parlons dans ce podcast. Oui, il n'y a pas que ces animus éthériques et ces parasites, et nous parlons de mondes parallèles qui sont complexes et extrêmement riches. Le sujet est loin d'être clos. Il est très intéressant de noter également que la philosophie matérialiste, qui nie avec même une certaine virulence et arrogance l'existence des mondes invisibles et de leur peuple d'entités, est une manipulation de ces mêmes êtres éthériques. Ça les arrange bien, puisqu'évidemment, Quelle meilleure manière de ne pas être découvert que de laisser ou d'inciter une philosophie se développer qui nie leur propre existence. L'affirmation de la non-existence de ces mondes est une forme de foi comme une autre, puisqu'il ne peut pas y avoir de preuves matérielles, ni dans un sens ni dans un autre. Alors, après la description de ce tableau pas très reluisant pour notre humanité, il est temps de se poser la question de comment échapper à ce parasitage. Alors si une personne arrive à avoir une vie heureuse, équilibrée, positive, elle est de manière, on va dire, naturelle, plutôt préservée par rapport à une certaine nuisibilité de ces parasites. S'il y a parasitage, il sera tellement faible qu'il n'aura pas d'impact très important sur la vie de cette personne. Donc une personne qui n'a pas conscience de l'existence de ces entités, dans ce cas-là, peut échapper à ce piège. Mais si cette même personne subit un choc, et malheureusement la vie est ainsi faite que très souvent nous n'échappons pas à des événements d'une certaine puissance qui mettent notre émotionnel à rude épreuve, ce peut être aussi la maladie ou l'approche de la mort qui vont instaurer des angoisses, qui vont instaurer une certaine faiblesse psychologique. Et nous avons vu que ce sont ces faiblesses psychologiques qui permettent l'intrusion de ces parasites. Alors, si vous êtes arrivé jusque-là dans ce podcast, c'est que vous soupçonnez fortement l'existence de ce parasitage. Soit vous y avez eu affaire personnellement, soit vous connaissez des personnes à votre entourage qui en sont les victimes. Alors, la réponse est dans la force psychologique et dans la négation, la rupture du contrat, quel qu'il soit. Même s'il n'y a pas de contrat conscient, le non à l'intrusion, le non, je ne veux pas de cette pensée, je ne veux pas de cette impulsion, non, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Ce non est un refus à une programmation induite par l'extérieur. Ce refus est le refus d'un refus salvateur qui peut nous permettre d'échapper à cette emprise. On assiste parfois à une courte rémission après une volonté assez ferme de l'individu de se sortir de ce brouillard parfois dans lequel il se trouve, de cet empêtrement psychologique. Et puis, quelque temps après, les entités reviennent. À mon sens, il est nécessaire, si on veut vraiment résoudre le problème de manière radicale et de fond, c'est un entraînement de l'esprit. C'est un entraînement qui doit permettre un accroissement de force psychologique. C'est une pratique qu'il faut mettre en place, je dirais quelle qu'elle soit, pourvu qu'elle amène à une véritable élévation du taux vibratoire. Mais il faut faire attention avec même cette notion, élévation du taux vibratoire, ce n'est pas partir dans l'astral, ce n'est pas partir dans le rêve, bien au contraire, c'est vraiment élever les vibrations de son corps énergétique de manière à le renforcer et de manière à ce qu'il soit pleinement constitué à son plein potentiel. La vibration haute, associée à une conscience et une lucidité plus vive, empêche véritablement le parasitage. Les entités éthériques, ces animus ou autres entités, chercheront une autre proie en face de la difficulté que vous présentez à leur égard. C'est donc une pratique d'entraînement de la force de l'esprit. C'est celle que je propose dans mes ateliers, dans les soins à distance. Quoi que vous puissiez trouver comme méthode, il faut qu'elle soit pragmatique, efficace. Elle doit s'accompagner d'une lucidité, d'une prise de conscience. Ça doit être une augmentation de la force intérieure, une augmentation d'une force de volonté libre. Mon expérience m'a fait comprendre et apprendre qu'il y a des centres d'énergie, des centres susceptibles et capables d'emmagasiner cette énergie en l'homme. Ces centres ne sont pas les chakras, ce sont des centres solaires. Mais ceci nous amènerait trop loin dans ce podcast. En attendant, sachez que il y a des solutions, il y a moyen de s'en sortir, à minima, instaurez en vous une vigilance de pensée. Ne laissez pas en vous s'installer n'importe quelle pensée. Soyez conscient de ce qui se passe en vous. Les pensées, et faites de même pour les émotions. On pourrait parler d'hygiène, d'une hygiène spirituelle. C'est vraiment très important pour votre bien-être, pour votre évolution propre. L'objectif est notre bien-être, est notre éveil, est notre bonheur, est notre joie, et notre évolution propre dans toujours plus de puissance intérieure. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour un prochain podcast.